prestation de la cuisine centrale, la location des salles municipales, le matériel municipal et le tarif aussi des redevances pour les terrasses. Donc, comme vous l'avez constaté aussi, nous n'avons pas changé ces tarifs puisque nous nous intégrons aussi dans l'évolution de ces tarifs, l'évolution des prix au niveau de l'inflation. Cette inflation étant quasi nulle, tous les tarifs sont inchangés. Donc, on vous propose donc de décider et d'approuver la modification des tarifs annexés à compter du 1er janvier 2021, d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents s'y rapportant et nécessaires à leur exécution.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier-là? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, le sujet suivant, puisque donc c'est l'autorisation, c'est la demande de subvention, pardon, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux.
Donc, comme vous le savez, nous bénéficions assez largement des dotations d'équipement des territoires ruraux, les DETR, pour les investissements qui sont menés par la commune. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'approuver le détail de ces demandes de dotation d'équipement des territoires ruraux au titre de l'année 2021. Donc, vous voyez également que les taux d'intervention varient en fonction du type d'investissement. Donc, je vais passer rapidement sur les investissements qui sont prévus pour 2021. On a en premier lieu les travaux de réfection de la voirie. Donc, ce sont des montants hors taxes, 750 000 euros, avec un taux de financement de 40%. Donc, ces travaux de réfection de la voirie, nous les reconduisons chaque année. Ça nous permet d'avoir une enveloppe pérenne au niveau de l'entretien de la voirie. Les grosses réparations dans les bâtiments scolaires, tout ce qui concerne les façades, les menuiseries extérieures, stores, les sols, etc. Donc là aussi, c'est une enveloppe qui est reconduite chaque année pour l'entretien régulier des bâtiments scolaires. L'acquisition d'équipements en nouvelles technologies dans les écoles, ordinateurs, tableaux blancs interactifs. Alors là, c'est une enveloppe spécifique pour cette année. Nous avons prévu une enveloppe de 35 000 euros hors taxes, donc pour l'équipement nouvelles technologies des écoles. La mise en place d'un système de vidéoprotection sur le site de Fayolle, je ne reviens pas sur le détail, qui est largement débattu, à hauteur donc de 40 000 euros hors taxes. Nous avons également des grosses réparations à l'hôtel de ville. Alors, il y a déjà eu des engagements au niveau de l'entretien de l'hôtel de ville. Là, il s'agit de la troisième tranche, qui va concerner donc le premier étage et la création d'un local d'archivage. Donc là, nous sollicitons pour le montant des travaux évalués à 330 000 euros hors taxes, donc la DETR, qui devrait normalement prendre en charge 50% donc de ces travaux. Nous avons également un investissement sur l'éclairage public à hauteur de 190 000 euros hors taxes, là aussi sur l'entretien du renouvellement en matière d'éclairage. La rénovation du petit théâtre. Alors là, bien sûr, il ne s'agit pas de la totalité, mais juste du démarrage des travaux. C'est la raison pour laquelle vous avez une assiette hors taxe de 513 000 euros, pour laquelle nous allons solliciter également la DETR, qui sera bien entendu complétée par d'autres subventions. Les travaux d'isolation des blocs sanitaires au camping de Courtilly, donc là aussi des travaux évalués à 23 690 euros hors taxes. Donc, nous avons un peu plus de 1 976 690 euros hors taxes pour l'année 2021, pour lequel nous avons sollicité la DETR. Donc, en fait, c'est à ce titre-là qu'on sollicite votre avis pour solliciter ces subventions.
Alors, peut-être vous préciser qu'on a deux interrogations sur 2021. Le tennis. Le centre tennistique dont on doit évaluer l'état et la durabilité, savoir si on peut repousser cet investissement sur 2022. Et puis la piscine, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Donc s'il s'avère qu'on doit faire des choix ou ramener d'autres projets sur cette demande-là. On prévoit un conseil municipal extraordinaire en janvier, de façon à être dans les temps pour le dépôt des dossiers. Mais on a encore besoin de pouvoir vous apporter quelques éléments de précision avant de vous proposer d'inscrire éventuellement d'autres projets, voire de les prioriser. On a parlé du petit théâtre. Peut-être que si on a des choix à faire, on sera obligé de faire des choix par rapport à cet équipement, par exemple. Voilà. Donc, dans un premier temps, on le présente comme ça. Et s'il y a des aménagements à faire, on vous les proposera sur un conseil municipal avant que la date limite de dépôt à la préfecture soit passée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces demandes de DETR ? Madame Bonin.
Oui, notre question, sans surprise, porte sur la rénovation du petit théâtre, et notamment cette première tranche. On s'interrogeait sur quels étaient donc les travaux prévus, pour quel projet culturel, un peu comme notre intervention préalable, et selon quel plan de financement précis.
Bon, on est sur une projection sur 2021, donc on a quand même l'espoir de pouvoir commencer à penser à cette rénovation sur l'année 2021, même si c'est en fin d'année 2021. L'idée, c'était de pouvoir le prévoir pour appeler la DETR, déposer notre demande de DETR. Je vous redis, ces travaux ne seront engagés qu'avec l'aval du conseil municipal après vous avoir proposé une programmation que nous validerons tous ensemble et vous avoir proposé des plans effectifs. On est là sur une projection pour essayer de réserver des crédits. Rien ne dit qu'on sera prêt, rien ne dit à quel moment de l'année on sera prêt. On n'est pas aujourd'hui, je partage, mais notre idée c'était de réserver une possibilité de crédit pour démarrer si possible en 2021.
Oui, tout à fait, il faut préciser le calendrier de la DETR. Je pense que vous connaissez, hein. Il faut déposer des dossiers de demande de subvention, effectivement, de janvier ou plus tard mi-fin janvier. Donc là, effectivement, on est pris aussi par les délais. Ça nous permet aussi de prendre date aussi auprès des services de la préfecture pour obtenir les crédits nécessaires. Alors, à hauteur de 500 000 euros, vous l'avez vu, ça ne correspond pas du tout au coût total des travaux, mais ça correspond au montant qu'on a estimé pour les études, les analyses, l'élaboration du dossier des consultations aussi des entreprises, la mise en place d'un accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, tous ces dispositifs préalables et nécessaires pour initier le chantier du travaux des petits théâtres. Voilà. Donc c'est vrai que là, on est pris par le délai. Hein. Chaque année, de toute façon, c'est le cas. Hein. Il faut déposer les dossiers de demande de subvention à la DETR dès le mois de janvier. Donc c'est la raison pour laquelle on vous l'a proposé dans ce cadre-là.
Voilà. Oui, sur le calendrier, il n'y a pas de souci, effectivement, on connaît ce mode de fonctionnement. En revanche, c'était sur la somme qui est quand même assez précise, 513 000 euros, le pourcentage. Donc là, vous nous dites qu'en fait, c'est une phase de toutes les études, les diagnostics, etc., que vous avez estimé pour
oui, tout
le
à coup, fait.
De ce montant-là.
C'est pas moi qui l'ai estimé, ce sont
oui,
les services de la mairie.
Oui, je me doute. Je ne connais pas encore toutes vos compétences, mais je me doute que pour aller à ce niveau de détail, c'est plutôt de l'ingénierie. D'accord, c'est des services techniques.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions ? Donc, y a-t-il des oppositions au dépôt de ces demandes de DETR ? Des abstentions ? Je vous remercie. Ah, pardon, deux abstentions. Trois. Trois abstentions. Quatre. Bon. 4, c'est bon, c'est votre dernier mot.
Notre abstention, on comprend bien la nécessité d'aller chercher les recettes, notre abstention correspondant au dossier présenté, en fait, vidéoprotection et petit théâtre.
Alors, monsieur Gargadinec, dossier habituelle, l'autorisation d'engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du budget.
Alors oui, comme chaque année également, comme nous ne voterons pas le budget effectivement tout début d'année, il est proposé une délibération qui permet d'autoriser effectivement à comment à utiliser le, les éléments d'engagement budgétaire sur 2021 sur la base en termes de fonctionnement des dépenses de l'année 2020 et en matière d'investissement sur la base du cas des dépenses de l'année 2020 également. Voilà. Donc vous avez le détail des calculs, notamment pour les investissements qui ont été positionnés donc, sur la fiche de délibération. Donc ces éléments reprennent bien entendu tous les éléments de calcul de l'année 2020 à travers les crédits votés au budget primitif 2020, ceux qui ont donné lieu à des régularisations via le budget supplémentaire ou des décisions modificatives pour permettre donc le calcul de l'autorisation des engagements en matière d'investissement. Voilà, donc, tout le détail du calcul. Ce qu'on vous demande en fait, c'est une délibération pour permettre au service, à la mairie, de continuer à fonctionner et d'investir en 2021, tout simplement. Voilà.
Y a-t-il des questions ? Bien, donc je vous demande d'entériner cette autorisation. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc, Madame Tondu, sur la convention avec Action Logement.
La convention cadre Action Cœur de Gilles de Guéret, signée le 28 septembre 2018, par les partenaires financeurs et les partenaires locaux, ambitionne de conforter efficacement et durablement le développement du cœur de l'agglomération et appelle une intervention coordonnée de l'ensemble des acteurs. Dans le cadre de ce projet global de transformation porté par les collectivités et afin d'accroître l'attractivité du centre-ville de Guéret, la ville de Guéret, la communauté d'agglomération du Grand Guéret et Action Logement conviennent de définir les conditions d'une intervention commune visant à favoriser la restructuration d'immeubles stratégiques du centre-ville de Guéret afin d'y développer une offre locative d'habitat rénové. Ainsi, la ville de Guéret et l'agglomération du Grand Guéret s'engagent à définir la liste des immeubles entiers qu'elles maîtrisent ou qui sont maîtrisés par des opérateurs publics fonciers ou des opérateurs privés dans des conditions de mutabilité maîtrisées par la ville ou le PCI, susceptibles de faire l'objet du programme de financement d'Action Logement Service. De son côté, Action Logement Service s'engage à analyser ces opérations pour valider leur conformité à ces objectifs et pour celles qui y répondent, à instruire les demandes de financement portées par les opérateurs sociaux ou privés qui se porteront investisseurs de ces opérations en accord avec la ville ou le PCI afin de faciliter la réalisation de ces opérations. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver le partenariat entre la ville de Guéret, la communauté d'agglos du Grand Guéret et Action Logement et la convention correspondante.
Bien, c'est aussi un dossier qu'on aurait pu regrouper avec l'ORT et l'OPARU. Comme je vous le disais, si vous validez la signature, pourra intervenir le 15 janvier. Et là aussi, le conseil communautaire a validé le 10 décembre cette convention. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Monsieur Cantarin, le renouvellement de l'autorisation de recours au service civique.
Vous m'écoutez ? Oui, donc je rappelle simplement que le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s'engager pour accomplir une mission d'intérêt général dans des domaines bien ciblés tels que la culture, loisirs, santé, environnement, jeunesse. Un agrément est délivré au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires. Le service civique d'un lieu a une indemnité versée directement par l'État. Les frais d'alimentation et de transport sont couverts par le versement d'une indemnité complémentaire à la charge de la collectivité. Un tuteur doit être désigné. Il est chargé de préparer et d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. Pour mémoire, la commune de Guéret, depuis 2012, accueille concomitamment chaque année 3 jeunes dans ce cadre. Il vous est proposé de renouveler la mise en place de ce dispositif du service civique au sein de la collectivité au titre de l'année 2021, d'autoriser Madame le maire à demander l'agrément nécessaire auprès des services compétents, d'autoriser Madame le maire à signer les contrats d'engagement de service civique avec les volontaires, d'autoriser Madame le maire à ouvrir les crédits nécessaires pour les versements mensuels de l'indemnité complémentaire.
Merci. Un dispositif extrêmement important et intéressant. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce... Oui, je vous en prie.
Pouvez-vous nous dire, Madame le maire, si le CCAS va bénéficier des deux services civiques dont était relativement par la presse il y a quelque temps?
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu du retard qui n'est pas imputable au CCAS dans le traitement de la demande. Donc, le projet est toujours d'avoir, par le biais des services civiques, une approche des personnes qui ne sont pas connues des services du CCAS et qui peuvent être dans une grande solitude et dans une grande difficulté pour pouvoir aller à leur rencontre et leur proposer les services qu'on peut leur apporter. Et donc il y a eu un retard dans le traitement des dossiers, mais la demande est maintenue et Madame Guyonnet l'a relancée tout dernièrement pour qu'elle aboutisse. Monsieur Vindard, je sais pas, c'est bon ? Je parle sous le contrôle du vice-président.
Quand vous parlez des personnes qui ne sont pas connues du CCAS, est-ce que vous parlez des personnes âgées ?
Pas seulement. Je pense que justement, à l'occasion de la crise de la Covid, on s'est aperçu qu'il y avait des personnes alors âgées, mais aussi malades, ou des familles monoparentales qui étaient extrêmement isolées et qui n'étaient pas connues des services parce qu'ils ne bénéficiaient pas, souvent parce qu'ils ne l'avaient pas demandé, qu'ils ne bénéficiaient pas des dispositifs d'aide de droit commun. Et donc l'idée, c'était, alors on peut leur envoyer des courriers. On sait que ça peut faire peur, ça peut rebuter, qu'il y a des gens qui n'osent pas demander. Donc l'idée, là, c'était plutôt d'aller à leur rencontre et que ces jeunes puissent leur expliquer ce que peut apporter le CCAS, ce que peuvent apporter les services sociaux globalement, pour essayer de les raccrocher à quelque chose. Mais tous dans nos quartiers, on a vu des gens très souvent âgés, mais pas seulement, qui étaient totalement seuls pendant la Covid et qu'on a pu apercevoir à cette occasion-là. Notre idée, c'était de dire qui peut le moins peut le plus. Donc, tentons d'aller capter d'autres possibilités d'aide auprès de nos concitoyens pour des gens qu'on peut qualifier d'invisibles quelque part.
Parce que lorsque le CCAS a en charge le CLIC, donc le CCAS avait répertorié à ce moment-là quand même pas mal de personnes. Et donc après, le CCAS a perdu malheureusement le CLIC, mais... Les deux clics. Et donc, ça avait permis quand même de faire des listes assez complètes des personnes.
Alors, le dispositif clic existe toujours sous une autre forme. Donc, je pense que les personnes qui étaient suivies à ce titre-là sont toujours par le conseil départemental. Mais bon, il n'empêche que je pense qu'on peut tenter d'aller un petit peu plus loin dans le soutien qu'on peut proposer. Il y a toujours des gens qui passent à travers les mailles du filet, parfois par pudeur, pour ne pas demander d'aide, pour ne pas... Voilà, donc notre idée, c'est si on s'aperçoit qu'il y en a très peu et qu'on a couvert tout le territoire, on en sera encore plus content. Mais je pense quand même qu'on a encore des gens à capter. Alors là, il y en a un qui a été demandé, le projet C2, mais on va commencer par un pour voir effectivement si le deuxième s'avère nécessaire. Si un fait l'affaire, il n'empêche que le contrat civique, c'est quelque chose, une formule qui nous intéresse énormément. Et je pense qu'on n'en restera pas aux 3 qui sont actuellement dans nos services. Ça fera 4 avec le CCAS, mais on aura largement de quoi pouvoir les employer dans le domaine de la solidarité et que le capitaine, le cinquième qui arrivera, aura largement de quoi s'occuper. Et sur la mission spécifique d'aller vers les gens isolés, pour le moment, on flèche 1.
Et sous combien de temps, à peu près?
Alors, les services de l'État ont été relancés. On leur a dit que c'était urgent. Je pense qu'il ne faut pas attendre que la crise soit passée pour commencer à mettre des dispositifs d'aide en route. Donc, encore la semaine dernière, les services de l'État ont été relancés. J'ai vu la préfète et on l'a réalertée sur le manque de réponse. Donc, j'ai bon espoir que ça aille très vite. Après, il faut trouver le profil idéal. Parce que c'est aussi une mission très délicate qui va demander effectivement est-ce qu'on la confie à quelqu'un qui aura cette vocation-là. Il faut avoir le sens de l'écoute, il faut être quelqu'un de. Il faut qu'on soit sûr de la personne qu'on envoie au domicile des gens en grande difficulté. Il faut un tas de qualités qu'il va falloir qu'on arrive à trouver chez les jeunes, mais j'ai bon espoir qu'on y arrive. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, sur cette demande de renouvellement d'autorisation de recours aux emplois civils, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Toujours M. Contarin pour la modification du tableau des effectifs.
Vu la réglementation à la matière, vu l'avis du comité technique en date du 2 décembre 2020, la modification du tableau des effectifs est justifiée d'une part par les nécessités de service et des modifications d'organisation intervenues à la direction des services techniques et à la direction éducation jeunesse. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser au 1er février 2021 à la direction des services techniques la création d'un emploi d'ingénieur à temps complet pour la chefferie du service aménagement du cadre de vie logistique et la suppression à cette même date d'un emploi d'ingénieur à temps complet à la chefferie du responsable du centre technique municipal. Au 1er mars 2021, à la direction éducation jeunesse et pour le recrutement d'un responsable de site Langevin, donc c'est un nouveau poste ouvert sur plusieurs grades, au nombre de 6, animateur principal de première classe, animateur principal de deuxième classe, animateur, adjoint d'animation principale de première classe, deuxième classe, adjoint à l'animation principale à temps complet. Et donc, effectivement, en fonction du grade de la personne recrutée, les postes créés seront par la suite supprimés. Nous avons donc une délibération qui se présente avec plus 7 postes et moins un poste, avec la suppression, soit un solde positif de 6 postes, mais en réalité, nous n'avons qu'un poste supplémentaire, celui de la chefferie du site Langevin. Il vous est proposé d'autoriser Madame le maire a effectué les déclarations de création d'emploi auprès du centre de gestion de la Creuse. Madame le maire a effectué les démarches nécessaires pour le recrutement et la nomination sur ces postes.
Y a-t-il des questions? Bien, donc je soumets cette proposition. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Les lignes directrices de gestion, un gros dossier.
Alors, les lignes directrices de gestion ont été introduites par la loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique. Elles s'appliquent aux trois versants de la fonction publique. Vu le décret d'application du 29 novembre 2019, relatif au LDG, les objectifs des lignes directrices de gestion visent à déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences, de fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, puisqu'effectivement les CAP, commissions administratives paritaires, n'examineront plus désormais les décisions individuelles en matière d'avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021, puisque celles-ci relèveront directement des lignes directrices de gestion. L'objectif également est de favoriser en matière de recrutement l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels, ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit du document de référence pour la gestion des ressources humaines de la collectivité. Afin d'être applicable aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2021, les lignes directrices de gestion doivent être créées par arrêté de l'autorité territoriale avant le 31 décembre 2020, puis communiquer le plus largement possible aux agents. le comité technique a été sollicité le 2 novembre 2020 et a émis un avis favorable. Et donc, effectivement, annexé à la présente délibération, donc nous avons les lignes directrices de gestion de la collectivité qui sont, je le rappelle, le fruit d'un travail partenarial avec les organisations syndicales, CGT et UNSA. Voilà. Donc, ça a vraiment été un travail très productif et constructif.
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? Donc, vous avez vu en annexe le document complet. Bien, donc, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. La convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement. Monsieur Contard.
Alors effectivement, pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, l'usager ne règle plus un droit de stationnement, mais une redevance d'utilisation du domaine public. L'usager s'acquitte du paiement d'un forfait de post-stationnement, dit FPS. Donc le contrôle du règlement du stationnement payant et l'application du FPS s'effectue par voie dématérialisée. L'ANTAI, Agence nationale de traitement automatisé des infractions, a été désignée par le législateur comme l'autorité en charge de l'émission des titres exécutoires pour le recouvrement des FPS. Donc par délibération de 2017, la ville de Guéret avait conventionné avec l'ANTAI pour 3 ans jusqu'au 31 décembre 2020. Il vous est donc proposé aujourd'hui de signer une nouvelle convention afin de bénéficier des prestations de l'ANTAI du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2023.
Merci. Des questions sur cette convention ? Elle a déjà existé. Donc, des oppositions, la signature de cette convention, des abstentions ? Merci. La convention d'objectif 2021-2023, les Crocyclettes Ville.
Alors, par convention de 2017, la ville de Guéret et l'association Les Ateliers de la Creuse se sont engagés à réduire les déchets produits sur le marché. Un employé de l'association est présent tous les jours de marché afin de recueillir les déchets produits sur le marché et sensibiliser les commerçants et leurs clients. Dans son bilan d'activité 2020, l'association indique que son action a permis de réduire les déchets ménagers à hauteur de 16 tonnes par an. Afin de poursuivre ce partenariat, il est proposé au conseil municipal de conclure une convention pluriannuelle 2021-2023 à budget constant. Et donc effectivement d'autoriser l'attribution d'une subvention annuelle de 8 500 euros, soit 25 500 euros sur 3 ans.
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? Non, vous avez eu la convention en pièce jointe, donc des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Donc, l'exploitation du bar-restaurant de Courtille, hein, monsieur Contarin.
La ville de Guéret est propriétaire d'un établissement situé à Courtille. L'établissement constitue une dépendance du domaine privé communal et comprend différentes installations, cuisine, des réserves, des sanitaires. Le local est mis à disposition sans matériel ni mobilier. Les lieux mis à disposition sont destinés à recevoir un service de restauration et de boissons, ainsi que des activités annexes, telles que des animations, par exemple. Afin de valoriser cet établissement, il est proposé au conseil municipal de lancer un appel à candidature pour l'exploitation du bar-restaurant de Courtille. Les termes de l'appel à candidature sont fixés dans le cahier des charges et l'avis s'y annexé. Et donc, effectivement, je peux peut-être revenir sur l'avis d'appel à candidature sur les grandes lignes, puisqu'effectivement, le cahier des charges rappelle l'objet de l'appel à candidature, puisqu'il s'agit de l'occupation contractuelle d'un établissement à usage de bar, restaurant relevant du domaine privé de la commune. La deuxième partie sur le dossier de candidature, puisqu'effectivement il est indiqué que chaque candidat devra produire un dossier de candidature complet avec une présentation de la capacité du candidat et de son expérience, ainsi qu'une note générale valant mémoire comprenant notamment l'activité envisagée, les moyens humains, les périodes d'ouverture et les horaires d'ouverture sur l'année, une présentation du type et de la qualité de l'offre alimentaire, la grille tarifaire et un plan financier. Et enfin, une commission sera spécialement constituée donc pour statuer sur ces candidatures et les critères de sélection reposeront sur la qualité du projet commercial et la capacité du financement du projet, sa viabilité.
Donc nous serons très vigilants aux heures d'ouverture pour que l'été, entre autres, nous puissions bénéficier d'une ouverture maximale sur la qualité des produits proposés, sur les animations qu'éventuellement aussi l'établissement pourra proposer sur le site. C'est un des plus beaux entassements de Guéret, donc il faut le valoriser. Et puis éventuellement, si on peut le lier à un beau projet social, on en sera ravis. Et on vous invite tous à participer à la commission qui choisira le potentiel occupant du bar de Courtille. Donc, au moment où on sera prêt, on vous lancera une invitation pour que vous puissiez partager ça avec nous. Voilà, je vais vous retenir encore un tout petit moment sur trois informations. J'ai même pas fait voter, je suis navrée. Monsieur Delettre.
Il semble que c'est dans le cahier des charges. Dans l'article 5, vous y faisiez référence à l'instant, il est question d'encourager l'ouverture les week-ends et durant la période estivale. Donc, je me demandais s'il n'était pas possible plutôt d'exiger cette ouverture les week-ends et d'étendre la période estivale à une période plus large qui irait des vacances de Pâques aux vacances de Toussaint.
Oui, on a voulu être pédagogue, mais l'idée c'est dans la négociation effectivement de demander aux candidats d'ouvrir extrêmement largement. Alors tous les jours, je pense qu'avec le droit du travail, c'est pas possible, mais de s'organiser pour que pendant la période estivale qui va de mai à fin septembre, octobre, on puisse avoir une ouverture extrêmement large. Après, il faut voir avec les possibilités des repreneurs en matière de continuité des heures de travail, etc. Donc on a mis encourager, mais bien évidemment, on y sera extrêmement attentif. Donc y a-t-il des oppositions sur ce cahier des charges? Cet appel à ce lancement de la colle de candidature, des abstentions. Je vous remercie. Donc, je vous disais trois informations à vous donner. D'abord, nous avons reçu, en même temps que la Com d'Aglo, un rapport de la Cour régionale des comptes qui nous demande une réponse sur huit observations qu'elle avait formulées. Nous avons souhaité pouvoir travailler globalement avec l'ensemble du conseil municipal sur les réponses que nous apportions. Elles se situent sur trois domaines, les RH, les finances et le travail avec les associations. Donc, si vous souhaitez travailler avec nous sur cette réponse donc, qui devra arriver fin février à la CRC, moi je vous proposerais bien de travailler à partir des trois commissions qui existent déjà, la commission des finances, la commission liée au personnel et la commission vie associative, de façon à ce que nous puissions faire remonter nos remarques à partir de ces trois commissions. Il n'y a que 8 recommandations, donc je pense que ça ne demandera pas un travail trop important. Donc, oui, monsieur Vernier, Bien sûr. Après, les recommandations étaient loin d'être inintéressantes. Donc, je pense que ça peut nous servir de base de travail tous ensemble. Oui. Alors, après, les services ont commencé à baliser le travail. Et si on reste dans le cadre de nos trois commissions, toutes les listes sont représentées et je pense qu'on peut être... Donc, si vous validez cette proposition, on réunira les trois commissions et on le mettra à l'ordre du jour. La deuxième information, vous vous souvenez, je vous avais dit l'autre fois que le débat d'orientation budgétaire aura lieu le 22 février et on y joindra la commission destinée à octroyer les subventions aux associations pour qu'elles les aient le plus tôt possible. Et on débattra du BP le 13 avril. Là aussi, moi, j'avais souhaité qu'on puisse travailler le budget avec toutes les listes qui, quand
propose ce conseil municipal. Donc la commission des finances en tant que telle ne sera bien sûr l'élément moteur, mais par contre je vous propose, si vous souhaitez associer plusieurs personnes de votre liste à nous le dire, la commission des finances actuellement elle comprend M. Dubois, M. Brunati, M. Delettre. Donc si la liste de Sylvie ou d'Éric souhaite rajouter une personne, vous êtes bienvenue, vous nous le faites savoir. Et donc, on réunira la commission des finances pour travailler sur le BP. Voilà. Très rapidement, je vais vous dire que l'opération Un arbre, un enfant va débuter en janvier, que le premier arbre pour la première naissance d'un bébé en janvier sera planté. Donc, c'est Madame Adrien qui travaille sur le sujet avec notre service Espace Vert. Et moi, je tenais quand même ce soir à vous garder encore un tout petit moment pour pour vous parler de la piscine. Et puis pour que vous ayez un niveau d'information maximal sur ce dossier qui nous prend énormément de temps et d'énergie. Donc j'ai essayé de reposer rapidement le contexte. Une piscine qui date de 1967, elle a donc 53 ans. En 2013, la Comdaglo prend la compétence de construction et de gestion d'un nouveau centre aqualudique. En 2019, avis favorable de la Comdaglo pour la construction d'un projet alors qui semble un peu onéreux et qui a été revu à la baisse de l'ordre de 11 millions d'euros. Alors un terrain est ciblé, un pré-projet est envisagé, mais pour le moment rien n'est fixé. 6 millions d'euros de possibilités de subvention par le biais du PPC. Et donc au vu des événements actuels autour de la piscine, cette fin d'année, la Comdaglo a interrogé l'ensemble de ses maires sur l'éventuelle modalité de prise en charge des coûts de fonctionnement du futur centre aqualudique. On n'a pas encore tout à fait de position commune. Alors, à la mi-octobre, après une visite du site, je demande une inspection qui est faite par l'APAV le 28 octobre. Conclusion de péril imminent et d'évacuation immédiate. On ferme pour ne prendre aucun risque. Et on demande immédiatement une deuxième expertise à un autre cabinet indépendant qui nous fait trois visites à trois semaines d'intervalle et qui confirme dès la première visite la situation de péril imminent. On demande la mise en place d'instrumentation, c'est des capteurs sur la piscine et des analyses de la structure, alors par le biais de géomètres, de géologues, d'un laboratoire d'analyse, pour évaluer si cette piscine peut ou pas être restaurée à minima pour tenir jusqu'à la construction d'un nouveau centre aqualudique. Donc, si des réparations sont possibles, quelles sont ces réparations? Quelle est la durée de temps nécessaire pour les faire? Et à quel coût? Puisque bien évidemment, il ne s'agit pas de mettre aussi cher que sur une nouvelle piscine. Je précise que les études, jusqu'à présent, nous coûte deux fois 27 500 euros. Donc déjà, un coût important pour la municipalité. Préciser aussi que le personnel a été réaffecté dans les services de la mairie. Que bien entendu, il n'y a été mis fin à aucun CDD, par exemple. Le personnel ne subira aucune conséquence de la fermeture de la mairie. Alors, les choses qui sont actuellement à l'étude. Pour le 1er janvier, on a d'abord travaillé avec les trois piscines Aubusson, La Souterraine et Maulusson pour recevoir les enfants des écoles, les clubs et les cours de natation. Donc, on a un planning à disposition à partir du 1er janvier. Les clubs se sont inscrits. On va pouvoir, je pense, répondre à l'intégralité de leurs demandes. Sur les écoles, la réflexion n'est pas tout à fait encore close parce que c'est vrai que c'est difficile pour une école qui programme une heure de piscine de partir quasiment trois heures, le temps de faire la route, etc. Donc les écoles sont la réflexion. On a déjà des inscriptions, entre autres du collège Marouzeau. Alors à savoir que le coût éventuel pour le moment, avec les premières inscriptions qui nous sont arrivées de ces transferts sur les trois autres piscines, c'est 60 000 euros à minima jusqu'à la fin juin. Ça veut dire que si une solution n'est pas trouvée après l'été, on va de nouveau engranger le financement des transports et des entrées dans les piscines aux frais de la mairie. Alors, parallèlement, on a travaillé sur un projet de piscine semi-provisoire. Alors, on ne parle pas, si notre piscine, bien sûr, n'est pas réparable, soyons clairs. Alors, les piscines semi-provisoires, c'est des équipements qui sont tout à fait performants, mais dont le coût s'étale entre 2 et 4 millions d'euros. Alors, par contre, elles s'appellent semi-provisoires parce qu'elles vont tenir 5 ans et bien au-delà, telles qu'elles sont conçues. Ce ne sont donc pas des piscines éphémères qui ressemblent davantage à ces grosses piscines qu'on met dans les jardins. Ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite puisqu'il faut de la longévité. Alors, on a eu un échange avec le ministère des Sports et puis avec la préfecture. Le ministère nous promet un soutien maximal au vu de la situation. On est une ville-préfecture, notre piscine fait plus de 90 000 entrées par an. On a un taux d'occupation qui est maximal sur tous les créneaux horaires et on dessert un public bien au-delà de la Côme d'Agglo. Un tiers Guéret, un tiers Côme d'Agglo, un tiers hors Côme d'Agglo. Et puis, il y a les Jeux Olympiques qui s'annoncent. Donc, le ministère est tout à fait soutenant dans cette décision de concevoir une piscine semi-provisoire. Par contre, la difficulté à laquelle on se heurte, sur laquelle j'ai aussi brièvement échangé avec l'Agglo, c'est que l'État ne nous donne absolument pas la garantie de subventionner deux équipements à forte hauteur, du moins massivement, sur un même territoire. Donc ça pose une question. Ça pose la question du devenir des futurs financements pour le centre aqualudique. Voilà. Alors, moi, je souhaitais qu'on réfléchisse aux deux solutions qui se posent à nous. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse quand même par rapport à ce qui a été dit au conseil municipal précédent sur le fait qu'on nous ait reproché un manque de concertation pour les bons d'achat destinés à relancer le commerce, je voudrais dire que là, en matière de solidarité, il n'y en a aucune. On est complètement seul face à ce problème. Et moi, je tenais à le souligner parce que c'est du travail 24-24 depuis quelque temps pour trouver des solutions. Et là, je vous assure, la solidarité, on ne l'a pas vue au sein de l'équipe municipale. Alors, on a deux options sur lesquelles il va falloir qu'on se positionne ensemble. Et moi, je souhaiterais que ce soit des positions qu'on prenne en commun et qui, pas uniquement quelques personnes de la majorité qui les déterminent. Soit, si notre piscine doit être détruite, on peut solliciter la Côme d'Agglo sur le fait qu'elle se saisisse tout de suite de la situation et de la mise en place d'une nouvelle structure, même si elle est semi-provisoire, parce qu'on ne pourra pas attendre 5 ans. Je rappelle aussi que la Chambre régionale des comptes avait préconisé la prise de compétence sur la piscine actuelle, c'était en 2019. Soit la Côme d'Agglo refuse de prendre la compétence sur l'équipement actuel et continue à se projeter sur un futur centre aqualudique, ce qui est tout à fait son droit. Dans ce cas-là, la ville de Guéret va devoir assumer une piscine semi-provisoire. On va l'assumer seule, moi j'attire votre attention là-dessus, on va en choisir l'emplacement, on va choisir le type d'équipement, on va solliciter tous les financements possibles, et à la suite, on appliquera des tarifs différenciés entre les Guéretois et les autres, parce que les Guéretois ne peuvent pas assumer toutes les charges, mais avec le risque qu'effectivement, les subventions, après, soient diminuées sur les centres aqualudiques. Alors, je voudrais préciser aussi que ces équipements semi-provisoires ont un intérêt, c'est celui de permettre de lisser la dépense dans le temps, parce que ce sont des éléments modulables. Donc, ils peuvent offrir une solution immédiate, mais qui, après, peut être améliorée et complétée dans le temps. Par exemple, on peut rajouter des bassins, on peut rajouter des vestiaires, on peut réutiliser nos vestiaires sur d'autres équipements sportifs, on peut remplacer la structure de base, qui est la structure toile, très solide, mais toile, par du verre, par du béton. On peut faire tout ce qu'on veut dans le temps, ça permet d'aller progressivement sur ce qu'on pourrait qualifier de centre aqualudique, tout en lissant les dépenses dans le temps. Et ça répond immédiatement aux besoins de la ville de Guéret, qui est d'avoir un bassin, un grand bassin et un petit bassin, rapidement, avant la fin de l'année, si possible, pour la rentrée scolaire à Guéret. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vous pose les éléments tels qu'ils sont. Je m'interroge sur la démarche engagée. Alors, je vous propose, c'est pas ce soir qu'on va en décider. Je souhaitais vous donner les éléments, mais je pense que la Côme d'Agglo réfléchira aussi à son niveau. Ce qu'on vous proposerait, c'est un conseil municipal exceptionnel en janvier sur lequel on puisse se déterminer sur on décide quoi. Je pense qu'à ce moment-là, on aura déjà des éléments intéressants sur la structure actuelle. Est-ce que c'est à abattre? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Ça nous laisse le temps de réfléchir jusqu'au mois de janvier, d'en reparler. Je suis tout à fait ouverte aussi, si vous souhaitez une réunion de travail multigroupe sur cette question-là. Mais moi, je voulais attirer votre attention sur le problème épineux qu'on rencontre, sur ce moment stratégique où on est de devoir faire des choix coûteux, et coûteux pour les uns comme pour les autres. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il est logique que le conseil municipal, dans son entièreté, partage cette réflexion et la responsabilité de la décision qui sera prise ensuite. Voilà. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Sinon, je vous ai délivré les éléments au jour d'aujourd'hui. Voilà. On est prêt à partager des réflexions avec qui le souhaitera. On le souhaite même largement. Et je vous propose donc d'en redébattre après réflexion sur un conseil municipal exceptionnel en janvier. Voilà, bah écoutez, si on n'a pas d'autres interventions, Madame Bonin et Monsieur Delors. Allez-y.
Alors, pas sur la piscine spécifiquement. Moi, je voulais donner l'information à ce conseil, parce qu'on m'a demandé de le faire, de la démission de Marie Combeau. Elle faisait partie de notre groupe, je crois qu'elle vous l'a adressé en copie, Madame le maire. Donc cette démission est en cours, hein, elle n'a pas encore eu de réponse des services de la préfecture, mais elle souhaitait que je vous l'annonce ce soir. Elle souhaitait également diffuser un message vocal, mais qui est quand même assez long, donc je vais lui proposer de l'envoyer éventuellement à chacun d'entre vous, si elle le souhaite, ou par l'intermédiaire de Madame le maire.
Alors, moi je tenais à ce que vous puissiez lui transmettre que le travail qu'elle a fait en commission avec nous a été extrêmement agréable, je lui ai dit. C'est quelqu'un de très constructif et qui nous a apporté beaucoup dans les commissions où elle a travaillé avec nous, donc on la regrettera. Voilà. Et je voulais vous poser la question de sa succession éventuelle.
Oui, alors si la femme suivante sur la liste, on vient juste de la contacter, donc on va attendre d'avoir sa réponse avant de vous dire qui sera la remplaçante de Madame Combeau.
D'accord, merci. Monsieur Delettre, vous vouliez dire un mot ?
Oui, ça fait un peu écho à ce dont vous parliez s'agissant du dossier de la piscine. La fermeture en urgence de la piscine municipale, la difficulté de plus en plus prégnante de nombre d'entre nous d'accéder aux soins, la réactivation de notre centre-ville, par exemple, nous rappelle combien le sort de notre commune est intimement lié à celui de la communauté d'agglomération. Il n'échappe à personne ici que notre qualité de vie, et par là notre attractivité, en dépendent. Les enjeux sont donc majeurs. Alors, 6 mois après les élections municipales et communautaires, il est grand temps, je crois, de pouvoir débattre au sein de ce conseil des perspectives de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, tout particulièrement pour les élus guéretois qui ne siègent pas au conseil communautaire. La loi fait d'ailleurs obligation aux EPCI de rendre régulièrement des comptes aux instances municipales dont elles sont l'émanation, à défaut de disposer de la légitimité de la démocratie directe. Heureuse obligation censée limiter les dérives, pour peu que les élus, les électeurs et les médias jouent correctement leur rôle respectif. L'Assemblée du territoire n'a pas pu se dérouler pour des raisons sanitaires, mais la présentation du rapport annuel du président de l'EPCI, obligatoire en vertu de l'article L512-5211-39 du Code général des collectivités territoriales, doit être à mon avis le moment d'un nouvel état des lieux, de ce débat sur les perspectives et d'un éclaircissement des champs des responsabilités respectives pour nos concitoyens. Aussi, j'espère que ce rapport pourra être présenté et débattu dès notre prochaine réunion du Conseil municipal. Je rappelle également, à ce titre, que la question du débat sur ce rapport a été tranchée lors d'une séance de questions au gouvernement, publication au Journal officiel du 14 mai 2007. Madame le maire a donc toute légitimité à ouvrir un débat, y compris en l'absence du président de l'EPCI, dont l'audition peut néanmoins être programmée.
Bien. Alors, je sais que pour le rapport de l'EPCI nous a été présenté dans les temps réglementaires fin septembre. Je sais que quelques communes l'ont présenté à leur conseil municipal et effectivement, c'est quelque chose de réglementaire. Alors après, je m'en ouvrirai donc au sein de la Com d'Aglo avec le président de la Com d'Aglo pour savoir comment cette présentation peut se faire de la façon la plus adéquate. Est-ce qu'on demande au président de venir nous présenter ce rapport d'activité? Est-ce qu'on en débat à partir des documents qui nous ont été proposés? Je pense que l'intérêt, c'est d'arriver à un consensus sur cette question-là, que les deux collectivités puissent s'entendre sur le mode de faire, de façon à ce que la conversation, l'échange soit le plus constructif possible. Donc, je vous propose, dans le cadre de nos réunions à la Côte d'Aglo, de m'en ouvrir avec le président et donc de voir comment on peut inscrire ce rapport d'activité sur un prochain conseil municipal et selon quelles modalités. Est-ce que ça vous convient? Bien, oui, monsieur.
Oui, excusez-moi, ça va être très, très rapide. Juste une question par rapport à la demande qui a été faite d'exonération de loyer du cinéma.
Alors, on a répondu au cinéma de Sébéchal. On avait prévu un rapport qu'on a enlevé aujourd'hui parce qu'en fait, on peut lui accorder cette exonération qu'on fera bien volontiers, mais sur l'année 2021. Donc, on ne peut pas débattre là aujourd'hui d'une exonération qu'on accordera en 2021, mais on l'a prévu sur notre prochain conseil municipal. Vous vous en doutez bien, avec un avis favorable si tout le monde vote cette exonération. On sait bien les difficultés que rencontre cet équipement, l'importance qu'il a dans la vie culturelle guérétoise, et on était tout à fait favorable à le présenter aujourd'hui, mais on s'est aperçu que réglementairement, puisque ça portait sur l'année 2021, puisque l'exonération avait déjà été accordée jusqu'à la fin de l'année par la municipalité précédente, donc on ne pouvait interagir que sur 2021. Donc on va leur demander effectivement l'état de leur perte à ce moment-là, et on vous le proposera en conseil municipal. Monsieur Vernier et Monsieur Correa.
Oui, pardon, j'ai été surpris par ce que tu as dit sur la solidarité. Alors moi, je n'avais pas le sentiment d'avoir été sollicité, mais je veux dire ici très rapidement que je suis à l'entière disponibilité de votre équipe sur ce dossier-là, en particulier, okay. Quand vous le voudrez, quand vous le souhaiterez, à la place que vous voudrez. Mais bien entendu, je serai tout à fait à vos côtés et solidaire. On n'en a pas débattu dans le groupe, mais je pense que ça va de soi. En tous les cas, à titre personnel et en tant qu'ancien maire et connaissant un petit peu les choses, j'ai d'ailleurs quelques idées dans la tête à votre disposition totale pour venir vous aider sur ce dossier.
Merci. Monsieur Correa, vous voulez dire un mot ?
Juste, madame le maire, je vous remercie pour l'attention portée au cinéma. Comme vous le dites, effectivement, le cinéma, celui de Guéret en particulier, mais il y a plus de 150 cinémas indépendants en Nouvelle-Aquitaine. Certains ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires. Donc, merci pour cette attention particulière. Et puis, juste, j'en profite pour dire que la région Nouvelle-Aquitaine a apporté une aide de plus de 8 000 euros au cinéma Le Sénéchal. Nous sommes la seule région à avoir fait ça, à aider les cinémas indépendants par rapport à leur perte d'exploitation, parce que c'est un maillage très important pour l'accès à la culture dans notre région. Et on peut faire que les gens aillent au cinéma plutôt qu'ils prennent un abonnement à des plateformes telles que, enfin, je ne vais pas citer les noms, mais que tout le monde connaît et qui ne participent pas en plus à la création, alors que nos salles de cinéma reversent au CNC des aides qui après sont réutilisées. Donc voilà, j'en profite pour dire que la région a soutenu et pour saluer votre geste.
On ira à tu. Bien. Bien. On est juste bon pour le couvre-feu. Joyeux Noël à tous. Bonne fête de fin d'année malgré le contexte. Et on se revoit donc en janvier.